بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مشايخ خير توت لونج Revenons à Allah Rabbul Izzah qui nous permet de consacrer 20 minutes après la salat al-Isha pour étudier un peu plus la vie, la biographie de notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. L'objectif c'est mieux connaître le prophète alayhi salat wa sallam pour mieux l'aimer, pour le suivre, pour vivre les valeurs qu'il nous a enseignées. Qu'Allah Rabbul Izzah nous accorde cette sincérité, la compréhension et les leçons qu'on doit retenir de sa vie. Tout d'abord, je m'excuse, beaucoup d'absence, beaucoup de mardis où j'ai pas pu venir, qadar Allah. Et c'était un mardi un peu fatigué avec la rentrée, grosse charge de travail. Et des fois, on a fait le programme de Sira, mais en ligne. Donc, ce qui veut dire qu'on a un petit peu avancé, mais l'audio reste disponible sur le site. Et justement, le programme qu'on n'a pas pu faire à Montreuil, mais qu'on avait fait en ville, c'était concernant les difficultés que Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu avait connues au début de l'islam. Quand on parle, on va pas refaire ce programme, hein, ce programme a déjà été fait, mais si on peut tirer des grandes conclusions, c'est on retiendra jusqu'à la fin des temps qu'un homme noir, un homme qui était esclave, fils d'esclave, un abyssinien, c'est-à-dire un éthiopien, a été le croyant le plus persécuté de l'islam dans les moments les plus complexes et les plus difficiles. Et quand on parlait de personne qui a donné sa vie, qui a fait beaucoup de sacrifices pour l'islam, on gardera toujours en mémoire Bilal. Il est célèbre pour les difficultés qu'il a connues pour Allah. Ça, c'est sa célébrité. Tandis que d'autres à Mecca, comme Abu Lahab, Abu Jahal ou autres, ils étaient célèbres pour quoi ? Leur richesse, le nombre d'enfants, pour leur pouvoir. Mais tout ça, c'est parti sous terre. C'est devenu poussière. Bilal, radiallahu anhu, qui n'avait aucune richesse, qui n'avait pas de grande famille, qui n'était même pas arabe, et on a eu l'occasion d'expliquer que le fait de ne pas être arabe, vous êtes hors jeu direct. Même en étant arabe, si on n'appartient pas de grandes tribus, on est hors jeu aussi. Donc Bilal, qui n'avait aucune condition réunie pour briller à Mecca, a fini par briller, non pas auprès des chefs de tribu, mais briller auprès de son Seigneur, Azza wa Jal, auprès de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et tout le monde admirait Bilal pour sa patience, sa persévérance de la foi. Donc jusqu'au Qiyam, hein, lorsqu'on parlera de sacrifice pour la religion, on dira, Bilal, tu as un très beau bonnet, mashallah. C'est bien, ça c'est important. Allah est beau et aime ce qui est beau. Il faut bien s'habiller quand on vient à la masjid. C'est très important. Tout le monde est beau, mashallah. On continue. Ce qu'on retiendra également, c'est que cet homme qui était défavorisé d'une certaine façon par rapport à sa couleur et ses origines et sa condition sociale, si on peut utiliser ce terme, étant esclave affranchi, c'est lui. Ça, on n'a pas encore vu, hein, mais je pense que vous avez appris en sirat ça. C'est lui et uniquement lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va choisir qui complète. Va choisir plus fort. Pour donner le adhan sur la Kaaba lors de la conquête de Mecca. Et les Quraysh étaient amers, frustrés. Certains disaient comment on en arrivait à là pour entendre cet homme noir dire Allahu Akbar sur la Kaaba. C'était terrible pour eux. Mais l'histoire retiendra, l'histoire, c'est un grand terme, hein, la Ummah retiendra, et les anges ont retenu et ont inscrit que l'homme qui a été élu, choisi par le prophète pour donner l'adhan, le premier adhan de Tawhid à Makkah al-Mukarrama lors de la conquête de Mecca, c'est Bilal ibn Rabah. C'est pas un Banu Hashim, c'est pas un cousin du prophète, c'était cet homme qui a marqué l'histoire. Et l'histoire retiendra que le prophète avait entendu les pas de Bilal radiallahu anhu dans le Jannah. Il avait dit que telle action il accomplit après avoir fait ses ablutions, il fait toujours du rakat et ainsi de suite. Un homme exceptionnel qui a brillé sur terre et qui brille déjà dans le Jannah qui est promis au paradis. Donc ce sont de belles leçons qu'on retient. Et quand on dit que dans la religion, dans l'islam, il n'y a pas de racisme, il n'y a rien de tout ça, c'est qu'un des plus valeureux compagnons, c'est un homme de couleur. D'accord ? Et vous savez, la seule religion, la seule civilisation, la seule philosophie, et je pousse un peu en disant, non, je n'ai pas le droit de dire la seule, de toutes les civilisations, de toutes les philosophies, de tous les mouvements politiques, de toutes les cultures, il n'y a qu'une seule religion qui a mis en avant l'égalité entre les races, au tout début de son histoire. C'est-à-dire au début même de l'islam, les premiers jours, le prophète a annoncé que les hommes sont égaux. Aucune faveur ou aucune supériorité d'un arabe sur un non-arabe, d'un blanc sur un noir, si ce n'est pas là, la piété. Ça, vous ne le retrouverez dans aucune religion, aucune philosophie, à cette époque, aucun mouvement politique. C'est apparu récemment, un siècle. L'abolition de l'esclavage, un peu petit pour lui demander ça. Hein, l'abolition de l'esclavage. 1789, non ? Ah, 1840. Non, 1789, c'était les droits de l'homme, oui. Mais dans les droits de l'homme, c'est là qu'on reconnaît l'égalité entre les hommes. Et dans notre dîne, je cherche le verset ne me revient pas, que l'égalité entre les gens, mais là, dans le verset que j'ai récité, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'équité parfaite auprès d'Allah, et ainsi de suite, et l'abolition de l'esclavage, 19e siècle, du coup, 19e siècle, j'essaie de le piéger, c'est lui qui a eu le dernier mot, 19e siècle, abolition de l'esclavage, et dans l'islam, ça correspond à quel siècle l'islam, 6e siècle, il me semble, non ? Oui, au 6e siècle, on a déjà ces premiers signaux, et on a les premiers, d'une certaine façon, l'abolition de l'esclavage, quand on prend ça, on demande à Abou Bakr de d'affranchir Bilal. Non, on va s'arrêter. Ça, c'était la pièce de puzzle qui nous manquait depuis le dernier programme, et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter ce qui était en ligne. Nous allons continuer dans ce chapitre aujourd'hui. Je respecte mes 20 minutes par respect pour nos responsables de masjid qui ferment la mosquée. Nous continuons avec d'autres sahaba qui ont connu beaucoup de difficultés, et Bilal, lui, n'est pas mort. Il n'est pas mort de ses persécutions. Mais on va voir maintenant une famille, toute une famille qui a été tuée à Mecca. C'est terrible ça. C'est terrible ça. On parle de la fameuse famille de Al-Yasir. Al-Yasir, Ammar ibn Yasir, avec son papa, sa maman, toute sa famille. Donc, ils ont accepté l'islam et ils ont connu beaucoup de difficultés de la part d'un homme qui s'appelait Abu Jahl. Ce qu'Abu Jahl faisait, Abu Jahl les prenait un par un, les amenait à l'heure où le sol devenait brûlant dans la vallée de Mecca, il les allongeait sur le sol brûlant. Le prophète, alayhi salat wa salam, je lis toujours, fut profondément ému par les atrocités qui accablaient cette famille. Le prophète était très attristé, ça le faisait très mal de voir ces gens qui, avec une sincérité qui est exceptionnelle, unique dans l'histoire des religions, ils disent « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah » et on le menace de mort, ils disent « Non, on reste sur le tawhid, on ne retournera pas vers l'adoration des idoles. » Et le prophète sallam voit ces personnes persécutées tous les jours, au quotidien. Mais en aucun cas, le prophète alayhi salat wa sallam l'a culpabilisé en se disant que c'est à cause de moi. Non, il sait que c'était la sunnat d'Allah azza wa jal. Et le prophète alayhi salat wa sallam réconfortait cette famille par une phrase, une parole. Il ne cessa de les réconforter par ces paroles. Soyez fermes, votre lieu de repos au paradis vous attend. En arabe, c'est beaucoup plus beau. Le prophète me disait Sabran ya al Yasir. Soyez patients, ô famille de Yasir. Fa inna mu'idakum al-jannah. Soyez patients, ô famille de Yasir. Votre destinée, la promesse d'Allah pour vous, c'est le Jannah. Et cette parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam était amplement suffisante pour cette famille. Pour eux, le fait d'entendre cette parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que supporter avec patience, endurance, persévérance, Allah vous a déjà préparé le Jannah. Pour eux, c'était amplement suffisant. Et là, on voit la force de la foi, la puissance de l'iman. Quand le iman entre dans le cœur, quand le cœur est sur le droit chemin, il peut vous arriver, Allah nous protège des situations difficiles, mais quoi qu'il nous arrive, le croyant qui a goûté à la douceur de la foi, il reste sur le droit chemin, il ne désespère pas, il ne se plaint pas, il ne va pas raconter aux gens ce que je vis comme difficulté. Il sait que ce sont de grandes épreuves qui viennent d'Allah Rabbul Izza. Puis les savants disent à nous d'analyser ce que nous vivons au quotidien. Quelle est la nature de nos épreuves et est-ce qu'on peut comparer avec ce que les sahaba ont vécu? Jamais de la vie. Jamais un sahaba ne s'est plaint parce qu'ils avaient cette husnul dhanni billah. Et ça, c'est important dans l'épreuve. Quand on parle de l'épreuve, on parle souvent de récompense. Mais dans l'épreuve, ce que notre Rabb Azza wa Jal, Rabbul Izza, veut également que le croyant développe, c'est le husnul dhanni billah, la bonne pensée en Allah. Allah reprend un membre de ta famille, garde une bonne pensée sur ton Seigneur. Allah t'éprouve par une maladie difficile à supporter, garde une bonne pensée sur ton Seigneur. Qu'Allah Rabbul Izza n'envoie jamais une épreuve ou une difficulté pour te faire du mal, aucunement. Car Allah aime plus son serviteur que... Vous vous rappelez qu'on avait étudié le nom d'Allah Ar-Rahman, quand le prophète avait vu une maman avec un nourrisson. Quel âge a ton petit? Le plus petit?
4 ans.
Oh, 4 ans, non, je croyais que... T'avais pas un bébé, toi? Ouais, ben il a grandi, du coup, ok. Un bébé, un nourrisson de quelques jours. La maman, le prophète voyait une femme qui avait son bébé contre elle. Elle l'avait recouvert avec son châle, comme c'était la tradition chez les Arabes, et elle allaitait cet enfant. Et devant, il y avait un feu. Le prophète avait dit au sahaba, pensez-vous une seconde que cette maman puisse prendre son bébé et jeter de le feu? Le sahaba dit, jamais. Au prophète d'Allah, l'amour d'une mère pour son enfant, c'est quelque chose qui est unique dans l'histoire des relations humaines. Le prophète dit, sachez que Allah vous aime plus que cette maman aime son bébé. Ar-Rahman, le clément, le miséricordieux, le husnul dhanni billah, c'est qu'Allah ne t'a pas envoyé cette difficulté pour te faire du mal, car Allah t'aime à un niveau, un degré que tu ne peux même pas imaginer. Allah t'éprouve pour de très bonnes raisons, pour élever ton iman, pour pardonner ton péché, et pour mieux t'accueillir, te recevoir le jour des comptes et te faire accéder au Jannah. En ce jour où les gens qui vont voir la quantité d'invocations qu'ils avaient fait de ce dunya, qui n'avait pas été exaucé et qui ont été transformés en bonnes actions, ils souhaiteraient à ce moment qu'aucune de nos invocations ait été acceptée sur cette terre. Tellement le jour de Qiyama, ce sont les hasanat qui comptent, ce sont les bonnes actions qui comptent, et tout ce qui est en dehors des bonnes œuvres, le jour des comptes, n'a strictement aucun intérêt. C'est pour ce jour-là que tu dois patienter. C'est pour ce moment-là que tu dois être patient dans l'épreuve et prendre comme modèle et exemple les sahaba, les douanes Allah et Alim Ajma'in, et réaliser que ton épreuve n'est rien auprès de ce que les sahaba ont vécu, mais eux, ils avaient cette pensée positive à propos de leur Seigneur. Ils n'ont jamais eu de manquement de leur confiance en Allah Azza wa Jalla. Qu'Allah nous accorde cette qualité. Allahumma amin. Naam. Et donc, je continue, quand le prophète leur faisait cette promesse, Yasir, c'était le père, enfin, j'aurais dû préciser, le fils s'appelait Ammar, et son père Yasir, et son épouse s'appelait Soumaïa. Et on connaît l'histoire de Soumaïa, on va voir ça. Yasir, le père de Ammar, qui était donc âgé, est mort. Il est décédé tellement Abu Jahl le torturait. Il est mort. Il est mort donc shahid. Yasir. Soumaïa, la maman de Ammar, a été poignardée au cœur par Abu Jahl. Abu Jahl l'a poignardée au cœur. Et c'est la première femme qui est morte dans le chemin d'Allah, pour la cause d'Allah. Et là aussi, l'histoire va retenir que la première femme qui a donné sa vie pour rester ferme dans le din, c'était Soumaïa, radiallahu ta'ala, anha. Maintenant, si on réfléchit à l'histoire de Al-Yasir et l'autre compagnon, on avait un petit peu étudié ses sacrifices avant l'islam, ses sacrifices au début de l'islam, Moussa bin Umar, radiallahu anhu. Écoutez bien, c'est un petit peu complexe ce que je vais dire, un petit peu technique, mais on s'accroche. Ces sahaba ont écouté et entendu et cru en toutes les promesses d'Allah et de son prophète concernant l'aide d'Allah, concernant la facilité qui viendra après la difficulté. Mais est-ce que Ali Yasir a vu la facilité après la difficulté? Ils n'ont rien vu. Ils n'ont jamais connu un moment de répit, un moment de tranquillité. Mais ils savaient que même si on meurt dans les difficultés, ce qui nous attend et ce qui compte vraiment, c'est l'au-delà. Donc dans mes épreuves, sache, imagine, je prends le cas de quelqu'un qui est malade, Allah protège. Il y a tellement de personnes qui sont malades en ce moment. Ya Allah, quand j'essaie de faire doigt, j'oublie des noms, tellement il y en a. Entre ceux qui ont cancer, ceux qui sont hospitalisés, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont de grandes épreuves. Essayez de nommer, prenez le nom des personnes que vous connaissez qui sont malades, c'est important. Une personne peut souffrir, je prends le cas d'un cancer, Allah nous protège de cette maladie. Une personne souffre d'un cancer, de la prostate ou de je ne sais pas quoi, ou ainsi de suite. Et qui fait doigt, il fait doigt, il fait doigt tous les jours. Il va faire hajj. Il va faire hajj. Mouli Bagat me disait qu'il avait fait Umrah récemment. Il avait organisé Umrah. Et un homme, une personne qui venait de subir une grande opération, il est venu faire la Umrah avec sa bouteille d'oxygène. Difficulté pour respirer. Mais il est venu vers Baytullah. Ajib ça quand même. C'est extraordinaire. Puis quand on voit des gens qui sont vraiment malades, qui sont éprouvés, des personnes âgées. Je reviens vers cette personne qui a un cancer. Donc c'est une maladie qui est grave, qui est pas incurable, mais on ne s'en sort pas forcément. J'ai quelqu'un de ma famille, une dame qui a un cancer et qui a fini sa chimiothérapie, qui s'est fait opérer, qui a commencé la radiothérapie. Miskine, elle n'a plus de cheveux, c'est difficile. Ce sont des situations très délicates, très compliquées avec la chimiothérapie, le changement hormonaux, c'est terrible. Ceux qui ont, Allah nous protège, mais franchement, c'est complexe. Alors, je reste concentré. Cette personne qui a un cancer, qui se dit que je vais aller Hajj cette année. Je vais faire doua devant Baytullah. Je vais prendre la porte de la Kaaba. C'est une façon de parler, hein. Je vais être près du Multazam. Je vais me mettre debout à Arafat. Je vais demander doua. Allah, accorde-moi la santé. Ya Rab, je finis. Allahumma, enlève cette tumeur, enlève ce cancer. Libère-moi de cette difficulté que je puisse retrouver une vie de famille, une vie. Allahu Akbar. Et la personne meurt. Et la personne n'a pas vu l'acceptation de ses doua. Il quitte ce dunya avec cette maladie. La famille, les proches, et même cette personne qui est maintenant de le rarara de l'agonie, ne doit pas se dire qu'Allah ne m'a pas exaucé, parce que personne n'a demandé plus de doigts à Allah que Ahl Yasir. Et ils sont morts sans avoir vu l'aide d'Allah. Mais ils avaient une confiance inébranlable, totale, que Allah a entendu leur doigt. Et si Allah ne leur a pas accordé son aide de ce dunya, c'est parce qu'Allah réservait quelque chose de magnifique, d'exceptionnel, d'inimaginable le jour de Qiyama pour eux. C'est cette husnu dhanni billah que nous devons prendre de la famille de Ahl Yasir et que les personnes éprouvées doivent retenir que même si tu ne vois pas l'acceptation de tes invocations de ce dunya, sache qu'Allah ne t'a pas oublié et Allah n'oublie jamais ses serviteurs et Allah t'accordera la récompense que tu ne peux pas imaginer dans le delà. Même si tu meurs donc de cette maladie, de cette difficulté, Allah Rabbul Izzah va t'élever le jour de Qiyam. Même si les gens vont dire miskin, bicharo, il a fait pitié, ah Bougla l'a souffert, ah Bougla était malade pendant des années, ah il était alité, il était gay, plus marcher, il était gay, plus. Pour nous, c'est miskin. Certes, il a enduré, mais auprès d'Allah, c'est quelqu'un qui est en train d'être épuré de la moindre faute pour qu'Allah l'accueille le jour des comptes sans que cette personne ait le moindre péché sur son livret de compte. Nazariya, ça c'est une vision. Cette vision, si on n'a pas la ilaha illallah, et si on n'a pas travaillé la ilaha illallah, si on n'a pas étudié les noms d'Allah, on ne peut pas comprendre ça. Celui qui n'a pas iman ne peut pas comprendre que quelqu'un qui est sur son lit d'hôpital dans les souffrances, cette personne peut avoir le cœur apaisé parce que ce qu'il réserve, ce qu'il attend là-haut, c'est exceptionnel. Les gens vont juste dire que c'est quelqu'un qui a raté sa vie, ou alors, je sais pas comment on va dire, c'est quelqu'un qui a sa vie gâchée par ce cancer. D'accord? Mais le croyant a une autre vision des choses, et c'est de ces sahaba dont nous devons prendre des leçons et appliquer dans notre vie. Est-ce que c'est compris, ça? Non. On passe à un autre degré. Moussa bin Umair, radiallahu anhu. Allahu Akbar. On a raconté son histoire. Allahu Akbar. On a raconté comment est-ce que Moussa'ab a souffert à Makkah Mukarrama. Comment est-ce qu'il a perdu sa famille, ses proches, son argent, la nourriture, à Kalma, il n'y avait plus rien à manger, il est devenu maigre. maigre. Il était malade à cause de la, ce qu'on appelle la malnutrition, qu'il y avait des problèmes au niveau de sa peau, il était méconnaissable, alors que c'était un jeune homme d'une grande beauté. Quand il passait dans une rue de Makkah, on savait qu'il était passé là parce qu'il sentait son parfum rester. Adib, je ne veux pas répéter la même chose, mais il faut, pour introduire, pour comprendre la leçon. Moussa bin Umair est envoyé par le prophète à Madina pour devenir mu'allim, professeur. Il va enseigner le Coran. Presque toute la ville de Madina se convertit par Moussa bin Umair. Mais Moussa bin Umair ne verra jamais la conquête de Mecca. Le moment d'apothéose, ce moment où les Quraysh se rabaissent, reconnaissent, demandent maaf, et que l'islam atteint son paroxysme, l'essor de l'islam avec les dirigeants qui viennent et qui se convertissent. Wa ra'aytan nas yadkhuluna. Il ne l'a pas vu. Mais c'est des gens, c'est-à-dire que des fois dans les difficultés que nous vivons, Allah ne nous fait pas voir l'ouverture de ce dunya. Parce qu'Allah veut nous accorder encore plus le jour de Qiyam. Qu'on retienne sahaba, leur vie, leur a'mal, leurs efforts, leur patience, leur husn dhanni billah, ce sont vraiment c'est vraiment un enseignement d'une richesse extraordinaire pour nous. Donc, c'est pas juste on écoute l'histoire ici des compagnons comme ça, ça s'écoute avec respect. Et des leçons, de grandes leçons de foi à retenir. Hadha. Naam. Un cas totalement différent. J'ai fini mes 20 minutes, il me semble. Oui, 21 minutes. Encore deux petites minutes. Un cas totalement différent. Ammar, le fils. Ammar était tellement, parce qu'il était plus jeune, donc il était plus résistant à la torture, à la persécution. Et les Mécois n'arrêtaient pas de lui dire, refuse, renie la ilaha illallah. À un moment donné, il était obligé de dire ce que les Mécois voulaient entendre. Mais il avait dit pour qu'on arrête de lui faire du mal. Il est parti voir le prophète alayhi salat wa salam pour demander pardon au prophète d'Allah. J'ai dit, parce qu'ils allaient me tuer, mais jamais j'ai pas le prophète savait que sa parole, c'était juste une parole de façade, pour que les Quraysh le laissent tranquille. Et vous voyez la grande clémence d'Allah. Je vous ai dit qu'aucun musulman n'a quitté l'islam à cause des persécutions. Mais ce que ce qu'il a dit, c'était juste une parole. Mais son iman est resté intact. Et à ce propos, Allah Rabbul Izzah a révélé le verset « Illa man ukriha, man kafara billahi min ba'di imanihi, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman. » Le cas Ammar, qu'il a dit une parole de kufr, mais son cœur est, j'ai pas la traduction là, mais son cœur est apaisé et rempli de foi. Allah a accepté la parole, sa parole, et Allah savait qu'il était sincère intérieurement. Ce qui nous prouve que iman, c'est avant tout de le cœur. Ce qui nous prouve également que l'hypocrite qui dit je suis croyant, je suis musulman, et ainsi de suite, si dans son cœur il n'y a pas la réalité de tawhid, ça ne sert strictement à rien. Ce qui nous rassure, on sait que Allah sait exactement sajjad. J'oublie à chaque fois. Allah sait exactement ce qu'il y a, ce qu'il y a dans ton cœur. Soyons rassurés. Allah lit ce qu'il y a dans ton cœur. Allah sait ce que tu penses. Donc des fois, tu n'arrives même pas à exprimer ta peine, ta souffrance et trouver les bons mots quand tu fais doua. Fais-le. Et sache que Allah, Rabbul Izza, lit dans ton cœur, c'est exactement tout ce qui se passe. Donc, il faut qu'on arrive à parfaire notre intérieur, et c'est ça qui compte le plus. On va s'arrêter à la pour ce soir, Inch'Allah. Ce qu'on verra la prochaine fois, ce sont des sahaba dont les noms ne sont pas connus. Khabbab, Zinnira, An-Nahdiya. Déjà entendu? Je vais être honnête avec vous, moi aussi c'est la première fois que j'entends le nom de Zinnira, An-Nahdiya. C'était des femmes, elle, hein, Zinnira, c'était une femme esclave, mais vraiment inconnue. Et elle est morte pour Tawhid. Non, non, elle était, pardon, persécutée et Abou Bakr l'a affranchie. Et ce qu'on retient, on le fait direct. Khabbab, qui était quelqu'un de, qui n'était pas un noble de Mecca, d'accord, et Zinnira, également Ummé Ubays, c'était des femmes totalement inconnues. Et elles ont été affranchies par Abou Bakr al-Siddiq, tellement elles souffraient, elles sont restées fermes dans la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Leurs noms ne sont pas très connus. Dans quelques livres de Sira, c'est cité, mais n'oublions jamais que leur nom est inscrit auprès d'Allah Azza wa Jal. Il y a que qui que tu sois, il n'y a pas besoin de briller pour être connu auprès d'Allah. Tu peux être le plus bicharo, l'homme le plus pauvre, le plus discret, le plus introverti, que personne ne remarque ta présence. Mais si tu fais partie de ceux qui se prosternent le soir quand les gens dorment et qui font du bien et qui sont patients dans les épreuves, ton nom est inscrit auprès de ton Seigneur, les anges ont inscrit tes amal, et le jour de Qiyama, c'est là que le croyant sera honoré. Il n'y a pas besoin d'être célèbre auprès des gens pour être connu auprès d'Allah. Aucunement, ça n'a strictement aucun lien. Il suffit d'être sincère, d'être aligné à ton tawhid, de suivre les ordres d'Allah, de rester dans le haram, pour que tu brilles auprès de ton Seigneur, tu brilles auprès d'eux, Ahl-Sama, les habitants des cieux, c'est-à-dire les anges et les malaïka. Et quand le croyant meurt, nous, qu'est-ce qui se passe quand l'âme monte? À chaque ciel, les anges demandent c'est qui? Et on dit que c'est Fulan ibn Fulan, telle personne, fils de telle personne. Et les anges reconnaissent que c'est un croyant. Et ils lui disent, salam alaikum marhaba, sois le bienvenu. Les portes du premier ciel s'ouvrent et l'âme monte, ainsi de suite. L'honneur pour le croyant, le izzah. Le izzah, l'honneur pour le croyant, même quel que soit l'endroit où le croyant meurt, du moins qu'il était dans le droit chemin, les portes des sept cieux s'ouvrent pour lui, et il est accueilli par les anges, et son ruh sent à une odeur, un parfum exceptionnel, jusqu'à ce que l'âme se prosterne auprès du trône d'Allah. Ça, c'est izzah. Ça, c'est l'honneur. On n'a pas besoin d'être honoré de ce dunya. On a besoin d'être honoré auprès d'Allah quand on va quitter ce dunya. Qu'Allah Rabbul Izzah nous donne la possibilité de comprendre ces quelques paroles et de retenir les quelques leçons qu'on a essayé de mettre en avant. Et qu'Allah nous donne la fermeté dans la foi, que nous restons toujours attachés à notre kalimat tawhid. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ce qu'on verra la prochaine fois, je vais essayer de négocier avec Mufti Assad s'il peut faire en ville ce mardi prochain, pour qu'on refasse encore. Moi, j'aimerais faire tous les mardis jusqu'à Ramadan, parce que rattraper un petit peu, on verra comment on peut organiser. Je suis un petit peu embêté parce que juste après, il y a les leçons à retenir. En fait, c'est dissocié maintenant. Ce sera dissocié de tout ce qu'on a vu, mais c'est pas grave. On va faire un petit rappel et on va voir, il y a de grandes leçons de foi à retenir du sacrifice de ces sahabas. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil izzati khair. N'oublions pas de jeûner autant que possible durant le mois de Sha'ban. Et si on veut vraiment cibler des joies sunna, c'est de jeûner, Abdurrahman, 13, 14, 15, qui correspondent à quelle date pour la Réunion? Samedi, dimanche, lundi. Pour la France, la métropole, c'est un jour avant. Mais pour nous, c'est samedi, dimanche, lundi. Ne pas rater ces trois jours de jeûne qui sont sunna toute l'année et encore plus durant le mois de Sha'ban. Jazakumullah.